Si vous vous souvenez, dimanche dernier, nous en étions à l'existence de Dieu, d'un esprit intelligent et créateur, qui n'a pas fait les choses par hasard et par milliards d'années. Et donc, c'est toute une... si vous voulez, c'est toute une présentation de la vie humaine de nos jours qui est difficile, puisque on est imprégné de la théorie de l'évolution stricte, c'est-à-dire par pur hasard et sans intervention divine, comme l'a représenté de manière extrêmement forte Luc Besson dans son film Lucie. Donc Lucie, c'est le nom qu'on a donné à une australopithèque découverte dans une vallée d'Afrique. Et donc on a considéré que c'était un être humain. Il était humanoïde, alors que c'est largement contesté au sein même de la communauté scientifique, d'une part. Et d'autre part, ces ossements sont là, dans un lit de rivière, quelque chose comme cela. Et il n'y a pas de présence de rites funéraires ou d'autres squelettes. Et donc, on décrète que c'est une femme. Et donc, comme Luc Besson est totalement évolutionniste et se présente comme athée, dans Arthur et les Minimoy, vous me direz, c'est vraiment pas les pères de l'Église que je vous cite. Hein. C'est toute une série de films où si vous voulez, c'est le culte de la nature. Voyez, à un moment donné, Arthur s'attache à un arbre, enfin se embrasse un arbre ou une pierre, et à un moment donné il y a un animal qui passe et qui lui pisse dessus, et il dit: ça y est, j'ai réussi mon test de passage, je suis devenu une pierre, enfin je me suis tellement uni à la nature qu'il n'a pas vu la différence. Donc c'est ce qu'on appelle le panthéisme, hein, tout est Dieu, il y a une énergie électrique. Et donc, même si vous n'avez pas vu Lucie de Luc Besson, pour les besoins de ma démonstration, je dois vous spoiler le film, parce que c'est une drogue qu'on découvre et qui multiplie l'activité du cerveau de manière absolument extraordinaire, puisque on ne développerait que 10% des capacités neuronales de notre cerveau. Donc on arrive à 90-100% avec cette drogue, et donc elle rentre en communication avec les vibrations des électrons. Et donc, elle peut tout connaître, parce que parce qu'elle est en contact avec tous les électrons du monde, elle sait tout ce qui se passe, tout ce que les gens pensent, tout ce qu'ils font, tout ce qui est, tout ce qui était aussi. Elle sait, parce qu'elle a la mémoire des électrons. Donc, à un moment donné, elle se retrouve à New York, et donc elle peut remonter jusqu'aux tribus indiennes qui étaient à New York avant l'arrivée des Britanniques, qui se sont séparés ensuite et sont devenus des Américains. Et puis, à un moment, elle se trouve à Paris, et elle tue quelqu'un pour la remplacer sur la table d'opération, parce qu'il faut quand même retirer le surplus de granulés bleus qu'elle a, parce que voilà, elle n'en peut plus d'avoir cette drogue qui passe dans son sang, parce qu'elle avait une poche qui s'était ouverte. C'était une fourmi, hein, on lui avait mis des poches de cette drogue qui coûte très cher, et voilà. Et donc, elle dit: mais on ne meurt pas vraiment. Bon, il avait un cancer de toute façon. Bon, toc, on balance le corps, on lui retire le truc, et ensuite il y a une course-poursuite en voiture, elle écrase des gens. Vous avez le commissaire français qui est à côté qui dit: c'est quand même pas bien. Il dit: mais on ne meurt pas vraiment. On est des assemblages d'atomes. Et la fin du film, c'est le summum, c'est-à-dire qu'elle se fond avec tout ce qui l'entoure, les murs, les tables, les chaises et tout ça, et elle produit une clé USB où il y a toute l'information du monde, de l'univers et du cosmos, et elle disparaît dans cette clé USB. Et vous avez le scientifique qui est là, qui prend la clé USB et dit: on a l'explication du cosmos. Donc on ne peut pas faire plus panthéiste, c'est-à-dire pan, c'est tout est. Théiste, c'est tout est Dieu. Eh bien, si vous voulez, dans l'histoire biblique, Dieu, lui, est personnel, il intervient, il parle, et parce que nous, nous parlons, voyez-vous, on doit quand même se poser la question de cette différence profonde qu'il y a entre les animaux et nous par rapport à la parole, par rapport à la famille, par rapport aux soins que nous avons, à notre capacité de transformer ce qui nous entoure, au point de protéger nos pieds avec des chaussures, protéger du froid avec des vêtements, faire des habitats qui sont tout à fait adaptés, et corriger notre vue par des lunettes, découvrir les lois naturelles, découvrir les lois de la santé. Vous voyez ? Je suis d'origine corse. Voilà. Mon père est 100% corse, hein. Mais ma mère est normande, bretonne et limousine, je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc, ce créateur ne peut pas ne pas rentrer en relation avec nous. L'histoire sainte, c'est l'histoire de cette intervention de Dieu dans la vie humaine. Et le fait qu'il y ait de purs esprits qui existent, des anges et des démons, c'est une réalité que des personnes connaissent, ou par spiritisme, ou parce qu'ils sont exorcistes, ou parce que ce sont des personnes qui ont eu contact avec du surnaturel, et pour qui il y a une certaine évidence. Alors vous avez peut-être des mystiques qui étaient des fous, et c'est pas réel. Mais quand l'Église se prononce sur le fait que telle personne a vu vraiment des anges, on peut quand même s'intéresser à l'histoire de cette personne. Sainte Françoise de Romaine à Rome voyait son ange gardien, le Saint Curé d'Ars voyait son ange gardien, le Padre Pio voyait les anges, il est mort en 1968, hein. Il voyait les anges lui, il voyait les esprits, et... Par don spécial, hein, pas par nature. Et alors, tout ce monde surnaturel aboutit, avec des annonces successives, à Jésus. C'est-à-dire que les prophètes juifs vont dire, un sauveur va venir. Il va naître de la tribu de Judas, souvenez-vous de la prophétie de Jacob. Il va naître à Bethléem. Hein, c'est une prophétie d'un prophète. Il va naître d'une vierge. Ça, c'est Isaïe, je crois. Hein, une vierge enfantera. Et on l'appellera Emmanuel. Et en hébreu, Emmanuel, c'est Dieu au milieu de nous, quand même. Donc déjà, il y a cette annonce que Dieu, le Messie, sera plus qu'un descendant du roi David. Puisque je vous avais dit que les Juifs s'étaient organisés, organisés en tribus, et puis à un moment donné, ils avaient demandé un roi. Et le roi David, a été le premier grand roi après Saül, mais je vous le fais vite quand même, Salomon, le roi Salomon, qui a succédé à David et qui a construit le temple. Le temple où était déposé le coffret en bois, recouvert d'or, où il y avait les deux tables de la loi, les 10 commandements, le bâton d'Aaron et un pot de cette nourriture miraculeuse, cette gelée qu'il récoltait tous les jours et qui miraculeusement ne s'était pas décomposée lorsqu'ils étaient sortis du désert au bout de 40 ans. Donc il y avait un pot de cette manne, non décomposée, perpétuelle, qui était dans l'arche d'alliance. Alors vous avez peut-être vu, décidément, ça va pas voler haut ce soir, mais vous avez peut-être vu Indiana Jones et le et comment dire à la poursuite de l'arche. Ben, si vous voulez, cette arche d'alliance, elle a été cachée par le prophète Jérémie quand il y a eu les invasions babyloniennes. Donc lorsque les Romains sont entrés dans le temple de Jérusalem, qui avait déjà été détruit une première fois, qui avait été reconstruit, embelli par le roi Hérode en l'an 0 de notre ère, hein, il y a 2019 ans, eh bien, les Romains, quand ils vont détruire le temple, ils rentrent dans le Saint des Saints, où était l'arche, normalement, avec deux anges, avec les ailes étendues, sculptées en or, enfin doré, eh bien, il ne voit rien. Il n'y a pas l'arche. Donc, pour eux, c'est mystérieux, c'est ce peuple qui croit en un Dieu qui est pur esprit. Eux qui avaient inventé plein de dieux avec des femmes, des maîtresses, des guerres entre eux. Et voilà que trois hommes, qui étaient des rois de petites villes, et qui, par leur richesse, avaient le temps d'étudier, qui étaient des mages, dans le sens où ils étudiaient l'histoire, la botanique, la géographie, les mathématiques, voyez, l'algèbre, et ils avaient étudié les écritures des Juifs. Et ils venaient, un venait de Canaan, c'était un Africain, un autre venait, les autres venaient probablement de Sémites, mais qui n'étaient pas hébreux, et un autre était, caucasien, comme on dit de nos jours. Et donc, ils vont se rencontrer parce qu'ils ont tous eu la même intuition qu'il était le temps d'arriver dans l'histoire de ce petit peuple, l'arrivée de leur sauveur. Et donc, l'arrivée de leur sauveur, et eux étaient intrigués, n'est-ce pas, parce que ils connaissaient aussi le livre de Daniel, le prophète Daniel, dont je vous avais parlé peut-être la dernière fois, et qui avait demandé à Dieu quand viendrait le sauveur, et il lui avait répondu dans 49 semaines d'années. Donc, dans 7 semaines d'années. Et donc, 500 ans. Je me trompe peut-être, enfin voilà, c'est 500 ans. Et donc, le prophète Daniel était content, il avait une approximation, 70 semaines d'années, pardon, 70 semaines d'années. 70 fois 7 fois une année. Et donc, ce temps entre le prophète Daniel et l'an zéro arrivait. Donc, eux scrutent une étoile, parce qu'il y avait une prophétie qui disait qu'une étoile apparaîtrait à l'arrivée du Messie, et ils suivent cette étoile. Ils se rencontrent, et ils vont vers Jérusalem, parce que cette étoile s'arrête au-dessus de Jérusalem. Ils vont voir le roi Hérode, qui est Iduméen, donc la royauté a été donnée par l'occupant romain à quelqu'un qui n'était pas de la tribu de Juda, et c'était le signe que devait venir le Sauveur. Et donc vous aviez des juifs pieux qui savaient très bien que c'était les temps messianiques. Et donc ils arrivent, ils vont voir le roi et lui disent « Nous sommes venus adorer votre sauveur, votre messie. » Et lui, il sait que c'est un grand roi. Et lui, il est roi. C'est un concurrent. Alors il va leur dire « Ah ben très bien, on va réfléchir à tout ça. » Donc ils consultent les rabbins, les prêtres du temple, qui lui disent « Il doit naître à Bethléem de la tribu de Juda. » Alors il dit aux mages, qui étaient rois de leur petite ville, « Eh bien, allez à Bethléem, et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi. » Et donc ils sont partis, l'étoile les mène jusqu'au-dessus de Bethléem, et là, à ce moment-là, depuis 9 mois, une vierge qui avait été éduquée à partir de l'âge de 3 ans, si je ne me trompe pas, au temple de Jérusalem, parce que sa mère et son père, Anne et Joachim, l'avaient consacrée au temple, elle était de la tribu de Lévi et de la tribu de Juda. Ils s'étaient mariés entre deux tribus différentes. Donc elle était de sang royal, parce qu'elle était de la famille de David, par sa mère, enfin par son père et sa mère, et de la tribu de Lévi en même temps. Si et voilà qu'elle grandit, qu'elle a 14-16 ans, et un soir, donc nous on fête le 25 mars, un ange lui apparaît, Gabriel, l'archange Gabriel, et lui dit « Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Alors, Elle, elle a la foi, elle connaît l'histoire de son peuple, hein, qu'un ange lui apparaisse, c'est pas un choc. Mais elle lui dit, vous allez enfanter un fils qui sera le sauveur, le fils de David. Vous êtes celle qui a été choisie pour être la mère du sauveur. Et la Vierge Marie, elle, d'une manière extrêmement étonnante d'humilité, elle dit, mais je suis désolée, je me suis consacrée totalement à Dieu. Elle est fiancée d'un mariage hébreu qui était en deux étapes très unies. Des fiançailles quasi-mariage et la vie commune dans la maison commune. Donc c'était les familles qui négociaient en général avec le temps, hein. Et donc elle était fiancée de fiançailles très très fermées, quasi mariage avec Joseph. Or un rabbin ou un prêtre qui vivait à Nazareth les avait mis en présence, parce que elle, depuis l'âge de 3 ans, elle était au temple et elle voulait se consacrer à la prière. Ce qui est très rare dans le peuple hébreu, c'est pas possible, parce qu'il faut perpétuer le peuple. Il faut se marier et avoir des enfants. Elle avait choisi la chasteté. Et donc, connaissant ce vœu, un prêtre lui avait présenté Joseph, qui lui-même était un homme doux et pieux, qui respecterait ce vœu de chasteté. Donc elle dit à l'archange, comment pourrais-je avoir un enfant puisque je ne connais point d'homme? C'est-à-dire, le terme hébreu, c'est je ne m'unirai pas sexuellement à un homme. On traduit par connaître, mais en fait, dans la Bible, le mot connaître au sens de ce sens-là, c'est avoir un commerce charnel avec son époux. Et l'archange Gabriel ne se démonte pas, il insiste et il dit « Mais cela ne se fera pas par un commerce charnel, ce se fera par un miracle de l'amour de Dieu. L'Esprit Saint vous couvrira de son ombre. » Alors elle accepte. « Qu'il me soit fait selon votre parole. » Le fiat, voyez, « qu'il soit fait » en latin. « Fiat mihi secundum verbum tuum » en latin, je ne connais pas l'hébreu. « Qu'il me soit fait selon votre parole. » Alors à ce moment-là, elle conçoit Jésus. C'est-à-dire que Dieu va former d'un ovule de la Vierge Marie un enfant. Vous allez me dire, mais c'est du clonage, hein? Eh bien, oui. Sauf qu'il a créé quand même un chromosome Y. Et donc, c'est la raison pour laquelle Jésus ressemblait beaucoup à sa mère. Il avait 99% de l'ADN de sa maman. Et voilà que Joseph, lui, voit sa femme promise enceinte. Premier mois, deuxième mois, et il est très troublé. On lui a présenté comme une sainte femme et il ne comprend pas. Ouais. Donc, il décide de la répudier. Ce qui vous montre bien que les fiançailles sont un pré-mariage. Le mot répudiation est très fort. Pour lui éviter, et en secret, pour lui éviter d'être diffamé, voire même éventuellement lapidé, mais ça ne se faisait plus à l'époque. Mais déshonoré, ça certainement. Vous voyez ? Donc, dans son sommeil, il s'appelle Joseph, et son ancêtre, qui avait les songes, vous vous souvenez, de l'Égypte, eh bien, l'ange Gabriel, lui parle alors qu'il dort, c'est ce qu'on appelle un songe. Lorsque c'est une intervention extérieure à vous qui vous parle pendant que vous dormez, c'est un songe. Lorsque c'est vous qui imaginez, et avec votre mémoire, c'est un rêve. Quand c'est très négatif, c'est un cauchemar. Lui, c'est un songe. Et donc, en songe, l'ange Gabriel lui dit « Accepte cet enfant, il vient de Dieu. » Et donc, il va vers la Vierge Marie, il lui dit qu'il a eu ce songe, et la Vierge Marie lui dit qu'elle a eu cette apparition. Et l'archange Gabriel, avant de quitter la Vierge Marie, lui avait dit que sa cousine, mais à la mode de Bretagne, hein, puisque sa cousine avait 80 ans, Élisabeth avait conçu. mais elle avait conçu à 80 ans. C'était un couple stérile. C'était Zacharie et Élisabeth. Zacharie était prêtre du temple et il n'avait pas d'enfant. Alors, c'était lourd hein, pour l'époque. Hein. Mais donc, ils portaient cette épreuve, tous les deux. Et alors qu'il c'était son tour d'aller au temple pour offrir le parfum, les grains d'encens devant le rideau du Saint des Saints, là où il y avait l'Arche d'Alliance, où il y avait eu l'Arche d'Alliance. Donc, il arrive, il prend l'encens au sacrifice du soir, ce qu'on appelle les vêpres de nos jours. Et les gens à l'arrière, derrière, sur le parvis du temple, attendent, parce que le prêtre est entré à l'intérieur du temple, qui n'est pas très grand, pour faire la prière, et ensuite il sort pour bénir le peuple. Voilà que l'archange Gabriel lui apparaît, et qui lui dit, tu vas avoir un enfant. Et cet enfant sera le précurseur du Messie. C'est lui qui va annoncer à son peuple le Messie. Et tu l'appelleras Jean. Et là, Zacharie lui dit, mais moi j'ai 80 dépassés, ma femme a 80, je ne le crois pas. Et là, vous avez l'archange Gabriel qui lui dit, pardon, je suis un des 7 archanges qui, en permanence devant le trône de Dieu, et tu ne me crois pas, eh bien tu seras muet jusqu'à la naissance de cet enfant. Il sort du temple, il ne parle plus. À l'époque, on ne bénit pas avec un signe de croix, hein, on bénit avec les mains étendues. Et les gens se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors lui, il finira par décrire qu'il a vu un ange. Et sa femme est enceinte. Alors, 6 mois plus tard, l'archange Gabriel apparaît à la Vierge Marie et avant de partir, l'archange Gabriel dit « Ta cousine Élisabeth est enceinte de 6 mois, car rien n'est impossible à Dieu. » La Vierge Marie n'avait pas douté de la parole de l'ange, elle avait simplement émis des réserves. Voilà que la Vierge Marie dit à Joseph « Je vais aller rejoindre maintenant ma cousine. » « Ben vas-y. » Donc elle part de Jérusalem jusqu'à la ville d'Élisabeth, que je ne me souviens plus. Et donc, alors qu'elle arrive dans la maison de sa cousine, l'enfant, le petit Saint-Jean-Baptiste, qui a 6 mois et quelques jours, bouge dans son ventre, mais fortement. Et Élisabeth lui dit, à peine ta voix a touché mes oreilles que mon enfant a tressailli en moi. Et là, Dieu lui révèle en elle-même que c'est le Messie, attendu depuis des siècles. Et vous savez qu'actuellement en Israël, ou même dans le quartier ici, ils attendent toujours le Messie. Hein. Ça fait 2019 ans qu'ils l'attendent encore. Hein. Et Mordicus. Hein. Eh bien, elle dit, vous êtes bénis. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni. Que me vaut que la mère de mon Seigneur vienne me visiter? C'est une parole quand même particulière. C'est sa petite cousine, elle a 16 ans, hein, 16-18 ans, et Élisabeth lui dit qu'elle est la mère de son Seigneur. Donc c'est une inspiration divine qui lui révèle que cet enfant est le Sauveur, est le Messie. La Vierge Marie va rester quelque temps avec elle, va repartir à Nazareth, et de retour à Nazareth, vous avez César Auguste, qui, pour lever des impôts sur tout son empire, va décider d'un recensement pour pouvoir lever les impôts par tête de pipe, hein, par personne. Et donc, en Israël, il fallait revenir à la ville de son origine. Eux étaient de la tribu de Juda, même s'ils étaient dans le nord, à plus de 200, près de 200 km de Bethléem, en dessous de Jérusalem. Donc de Nazareth, ils descendent et ils arrivent à Bethléem. Et donc la Vierge Marie est enceinte, elle est sur un petit âne, Joseph marche devant, ils arrivent à Bethléem, mais la famille royale, elle a perdu tout pouvoir, tout argent depuis au moins 50-70 ans. Donc, que ce soit des descendants de la famille royale, ils n'ont plus de maison particulière ou autre. Donc la parenté éloignée, le cousinage de Bethléem, on n'a pas de place. Et puis en plus, il y a le recensement, donc il y en a qui sont venus, vous venez trop tard. Alors ils vont à une auberge, il n'y a toujours pas de place, à cause du recensement aussi. Alors, bon, après, vous avez des petites traditions orales ou dans les films, on vous présente quelqu'un qui leur dit, voilà, allez ici, allez là. Ils trouvent une grotte, une petite caverne, utilisée par les bergers pour, comme étable. Et ben, Joseph, qui est un peu, blessé hein, de ne pas pouvoir donner à son épouse un lieu de plus digne, aménage l'étable le mieux possible avec la paille et tout ça, retire le fumier le plus possible, et il y a une mangeoire, donc ils aménagent dans la mangeoire et ils attendent. Au même moment, vous avez un ange qui apparaît à des bergers qui gardaient les troupeaux dans les plaines autour de Bethléem. Et un ange leur apparaît. Il est plutôt brillant. Et il leur dit, il vous est arrivé une grande nouvelle. Il vous est né un sauveur de la maison de David. Alors, ces bergers juifs, ils sont contents de l'entendre, hein, mais vous le reconnaîtrez, ça sera un enfant emmailloté. Et ils cherchent. Et ils vont tomber sur la grotte, enfin la petite grotte, hein, une petite caverne creusée dans de la pierre, ou naturelle, et ils vont s'approcher. Entre-temps, la Vierge Marie a enfanté. Alors, dans son Immaculée Conception, contrairement au très beau film de Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli, qui est vraiment à voir, et donc si j'ai le temps, je vous le passerai en clé USB. Et il dure 2 heures, 4 heures ou 5 heures et demie. Hein. Donc, si vous sautez des épisodes, c'est une excellente présentation de la foi chrétienne. Et là, dans le film, malheureusement, comme il est protestant, elle a les douleurs de l'enfantement. Or, la Vierge Marie est immaculée dans sa conception. Elle est préservée de la souffrance et de la mort. La Vierge Marie est la nouvelle Ève. Bon, ça c'est un dogme de l'Église catholique. Et donc, l'enfant Jésus, lui, c'est le Verbe du Père, uni à un corps humain, avec une âme humaine. Dieu a créé un esprit humain, avec un corps humain, donc c'est un vrai homme. Mais si vous voulez, il est uni à l'Esprit éternel de Dieu, spécialement dans son Verbe, dans sa parole éternelle. Ce qui fait que l'âme de Jésus, dès qu'elle a été créée, est dans la contemplation de la divinité. Il est déjà un saint, si vous voulez, il est au ciel, entre guillemets. Le ciel, c'est pas les nuages ou une planète, hein. Le ciel, c'est de vivre en Dieu, de voir Dieu. Et donc l'âme de Jésus est dans cette vie divine. Ce qui fait que son corps est normalement glorieux. Son corps, normalement, est dans un état... excusez-moi, je vulgarise énormément la religion, mais c'est comme ça. Vous prenez comme vous pouvez. Il est, si vous voulez, les atomes de son corps sont en extase, en ébullition, si vous voulez. Il est comme de la lumière. Mais la lumière, c'est de la matière. Hein. Vous savez que la lumière, ce sont des photons qui sont envoyés par désagrégation de métal ou de gaz. Vous voyez ? Ça brûle. Vous voyez ? Et ça passe à travers le verre. C'est de la matière, hein ? C'est des milliards de billes qui sautent et qui, quand elles rebondissent, partent à des longueurs d'onde différentes selon les surfaces. La couleur des surfaces vient de la longueur d'onde que donne cette surface quand les photons la frappent. Eh bien, si vous voulez, les atomes du corps du Christ traversent le ventre de la Vierge Marie comme la lumière le verre. Bon, c'est un dogme, hein, attention. C'est joli, c'est mignon, mais c'est un dogme. Parce que la Vierge Marie est vierge avant l'enfantement, pendant l'enfantement, après l'enfantement. Quand nous croyons dans le témoignage des apôtres qui voient le Christ entrer dans la salle haute de la maison où il se trouve à Jérusalem, sans que les portes soient ouvertes, et en passant de manière miraculeuse, eh bien, c'est ce corps glorieux. Quand vous avez des gens qui ont eu des apparitions de purs esprits, si vous voulez, vous avez des témoignages, mais le Christ, lui, est ressuscité et il a un vrai corps. Je passe, les bergers arrivent et voient un petit enfant emmailloté. Et ils l'adorent, comme leur Messie. Ils sont quand même pas encore dans la révélation plénière de Dieu. Mais pour eux, c'est déjà le fils de David. Quelque temps plus tard, pas la nuit même, hein, pour des raisons liturgiques, on le fait une semaine plus tard, mais c'est vraiment l'épiphanie, le 6 janvier, par rapport au 25 décembre, hein, grosso modo, eh bien, ils viennent plus tard. Et ils sont passés par Hérode, et quand ils sont devant le petit bébé, ils déposent chacun un cadeau. Et ça, c'est pas une tradition orale, c'est dans l'évangile de saint Matthieu. De l'or, parce qu'il est puissant. De l'encens, parce qu'il est Dieu. Et de la myrrhe, c'est-à-dire une plante aromatique en pommade qu'on mettait sur les corps des morts pour que l'odeur de la décomposition soit masquée. C'est une plante pour embaumer les morts, la myrrhe. Et donc ça veut dire qu'il est mortel quand même. Mais ces trois cadeaux sont explicitement donnés. L'or, l'encens et la myrrhe. Hérode va envoyer son armée pour tuer tous les enfants de Bethléem, de 0 à 2 ans, parce que les mages s'étaient mis en pèlerinage depuis 2 ans. Hein, ils suivaient cette étoile. En tout cas, Hérode veut être sûr que le bébé soit tué, parce que c'est un concurrent pour lui, c'est un roi. Et là, vous avez l'archange Gabriel qui parle à Joseph pendant son sommeil, c'est un songe, va en Égypte, prend l'enfant et sa mère, et il part en Égypte. Il va rester quelques mois, un ou deux ans, c'est pas précis du tout, en Égypte, et quand Hérode meurt, il repart à Nazareth. Et à Nazareth, l'enfant Jésus va grandir. Il va grandir. Un bébé, un petit bébé, un petit garçon. Et il faut s'imaginer un peu quelle devait être sa connaissance. Parce que voyez-vous, vous avez des prêtres qui n'osent pas trop développer ce surnaturel. Si vous voulez, l'enfant Jésus, lui, il a la conscience de Dieu et il a la mémoire et l'intelligence d'un homme plongé en Dieu. Donc si vous voulez, il a la connaissance du passé, du présent et du futur, même en tant qu'homme, parce que Dieu lui donne de le connaître. La personne de Jésus est divine. Son je est divin. Et il a un mode d'être humain et un mode d'être divin. C'est la nature humaine et la nature divine. C'est-à-dire que Jésus peut parler toutes les langues. Jésus peut vous dire l'avenir, mais pas comme un saint, mais comme Dieu. Alors, il faut s'imaginer comment la Vierge Marie et Saint Joseph vivaient avec lui. Ça devait être amusant parce que, voyez-vous, l'enfant Jésus, lui, connaît tout, mais il a une connaissance expérimentale par le toucher, par la vue, par la mémorisation dans son âme humaine, de choses qu'il connaît de toute éternité, mais qu'il vit au moment où il le vit. Donc c'est pour ça qu'il peut rire. C'est pour ça qu'il peut pleurer quand il a mal, quand il tombe. Si vous voulez, c'est un vrai être humain. Et en même temps, imaginez, il a créé tout ce qu'il a alentour. Imaginez Dieu qui touche une fleur. C'est lui qui l'a créé, qui l'a conçu, qui sait comment ça marche et tout. Et il la touche avec un corps humain. Qu'est-ce que ça devait être extraordinaire pour l'enfant Jésus. On arrive à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, on est un homme chez les Juifs. C'est la bar mitzvah, vous connaissez peut-être.